La grille de départ prend forme. Ça va aller vite. Seulement 60 minutes pour compléter la course. L'épingle, le podcast. Une présentation de la Commission athlétique.
Sandrine Garneau, CEO du Grand Prix du Canada. Comment vas-tu?
Ça va très bien, toi?
Ça va bien, merci d'être là.
Ben, ça me fait plaisir.
C'est le fun de pouvoir se rencontrer dans un contexte. C'est tout le temps le fun de te parler, cela dit, mais dans un contexte plus détendu. Un petit peu que dans la semaine du Grand Prix ou dans la folie des semaines qui approchent. Là, ça approche plus vite qu'on pense un peu. Le vois-tu d'ailleurs, avant qu'on commence à jaser tout ça, mais la vois-tu la différence avec il y a 2-3 semaines de moins maintenant cette année?
Ouais. Oui, non, c'est clair qu'on le voit, puis c'est drôle parce qu'on en parlait, on en parle pas mal à tous les jours, là. Mais on en parlait tantôt parce que le mois de février est quand même relativement court. Après ça, il y a le mois de mars qui est particulièrement long et désagréable parce qu'on sait jamais ce que la météo va nous livrer. Puis après ça, avril-mai, ça va passer comme en 2 temps, 3 mouvements. Fait que c'est sûr que sur ce volet-là, comme ton corps s'en rend pas vraiment compte. T'sais, moi, mon premier Grand Prix était en 2013, fait que j'ai comme une espèce de muscle memory que c'était le mois de juin. Là, on s'adapte comme on peut, mais quand on se promène autour du circuit, là, on le constate vraiment parce que nous, notre montage est commencé depuis septembre. Fait que,
ouais.
Tu sais, si quelqu'un va faire un tour du circuit Gilles Villeneuve en ce moment, il y a beaucoup des gradins qui ont déjà été montés. Tu sais, il y a la plateforme pour le nouveau concert d'expérience CGV qui a commencé à être montée aussi. Les hospitalités des équipes dans le bassin, ça a déjà commencé à être monté aussi. Fait que sur ce volet-là, quand on le regarde sur le terrain, c'est sûr que ça paraît qu'on a 3 semaines de moins parce qu'on a notre montage est plus avancé qu'il le serait normalement. Mais dans mon corps, je dirais que je l'ai pas encore. Puis là, la saison, elle a pas encore recommencé non plus. Fait qu'on est dans l'espèce de limbo du temps des fêtes qui s'extensionne, si on veut, là, avec la saison morte. Mais j'ai l'impression que quand ça va commencer à rouler à Bahreïn, là on va probablement le sentir beaucoup plus.
Le kick qui va arriver justement de ouais. OK, là c'est live, puis ça va débouler beaucoup rendu là.
Ouais, ça va débouler vite. Tu sais, je veux dire, la F1. On a eu notre assemblée générale il y a 2 semaines. Là, la F1 vient en ville pour la reconnaissance la semaine prochaine. Comme ça, c'est tous des trucs qui sont cannés dans le calendrier. Chaque promoteur le fait. Tu as comme tes 6 semaines, tes 12 semaines, tes 8 semaines, blablabla. Là, il commence déjà à arriver. Fait que ça aussi, c'est un espèce de petit kick où est-ce qu'on est comme OK, d'accord.
Ça doit être spécial d'avoir comme de l'environnement unique au Canada. Ils s'en viennent faire une reconnaissance, puis je sais pas, il faut qu'ils fassent la piste en ski de fond ou quelque chose comme ça. Là,
mais je leur ai littéralement dit, c'est comme Sandrine, on va venir pour la reconnaissance. J'étais comme, ouais, il n'y a pas de problème, mais juste pour que vous sachiez, on a eu 25 cm de neige hier. Fait que, tu sais, on peut faire un tour de piste si vous voulez, on peut aller regarder des caniveaux si vous voulez, mais comme, ils sont là. Je vous jure qu'ils sont là.
Fait que, ils l'ont vu d'une autre façon. Là,
oui, puis tu sais, c'est des Britanniques qui ne sont pas nécessairement habitués à l'hiver. Là. Eux, s'il y a trop de feuilles sur les tracks de train, ils ferment la ville. Puis là, ils vont arriver ici où est-ce qu'on est, on est enseveli de neige. Fait que ça va être drôle à voir. Ils sont déjà venus dans le passé. En 2019, quand on avait refait le pit building, ils étaient venus. Puis ça, c'était comme l'affaire la plus drôle au monde parce qu'il faisait comme moins 42. Ils l'avaient jamais vu, ça. Là, ils portaient des sweatpants par-dessus leurs pantalons parce qu'il n'y avait pas de pantalon de neige. Puis il y avait trop froid. Là, c'était vraiment comme une caricature européenne. Mais là, on les a préparés, puis on s'occupe bien d'eux quand ils viennent. On leur donne des produits d'érable. On fait vraiment comme en sorte que c'est super canadien, culturel. Fait que je pense qu'à l'inverse, c'est avantageux pour nous aussi parce qu'ils peuvent voir c'est quoi nos écarts de température puis c'est quoi notre réalité terrain. C'est quand on dit à la FIA qu'on a besoin d'avoir notre rapport d'après-piste le plus tôt possible parce que notre fenêtre pour faire des travaux est quand même relativement courte.
Ah oui.
Puis tu sais, on dit tout le temps à la blague, on a six mois d'hiver. Mais la réalité est que, justement, par rapport aux caniveaux, on peut pas creuser des caniveaux cette année de novembre à avril, quasiment. Fait que s'ils veulent qu'on fasse des changements à la piste ou au muret ou quoi que ce soit, faut qu'on ait nos rapports d'inspection le plus tôt possible pour essayer d'en faire à l'automne. Parce qu'il y a aussi la réglementation qui fait en sorte que t'as pas le droit de faire rien à ton circuit 90 jours avant ton événement, des trucs comme ça. Fait que je pense que c'est bon pour eux aussi de voir nos écarts de température puis de voir c'est quoi notre réalité terrain.
Ouais, de s'ajuster à la réalité de tous et chacun. Ouais. Je veux dire, dans des endroits, par exemple, comme je pense tout de suite à Bahreïn, parce que t'en as parlé, Qatar, ils n'ont pas de problème à travailler 12 mois par année sur le circuit. Là. Ici, c'est peut-être pas la même réalité non plus.
Ouais, ben chacun a ses réalités différentes. C'est sûr que Bahreïn, l'Arabie Saoudite, le Qatar, Abu Dhabi même, tu sais, eux, ils n'ont pas de problème de gel-dégel. Par contre, ils peuvent avoir du 50-60 degrés où est-ce que là, c'est pas particulièrement agréable de travailler sur les buildings non plus. Là.
Non, effectivement.
Mais tu sais, un truc qui est intéressant par rapport à Bahreïn, il y a quelques années, quand la F1, quand Liberty est rentrée en ligne de compte puis qu'ils ont commencé à exiger des améliorations au niveau du développement durable, Bahreïn était venu nous voir puis ils sont comme, nous, on n'a pas d'infrastructure, ça n'existe juste pas à Bahreïn, on peut pas faire de recyclage, ça n'existe pas. Fait que là, on avait parlé avec eux, blablabla. L'année d'après, eux, parc solaire complet, ils ont été capables de monter ça en un an, des panneaux solaires pour offsetter toutes leurs émissions parce que leur réalité est qu'ils peuvent pas recycler, ils sont comme parfait. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, il fait chaud, il fait beau. Fait qu'ils ont monté un parc solaire complet. Fait que, tu sais, les réalités de l'un sont complètement différentes des réalités de l'autre. Puis c'est ça qui fait en sorte qu'on a un championnat du monde qui est pas stérile.
Ouais, quand tu voyages dans ces endroits-là, tu comprends que, c'est un, la réalité est très différente, mm-hmm. c'est-à-dire, mais aussi le budget qu'ils sont capables de déployer là-bas, tu sais, plus peur de la fin du monde que de la fin du mois. Là. C'est pas. Il n'y a pas de problème. On a besoin de ça. Attends, t'as besoin de ça? Attends, mais t'as-tu pensé la version comme amplifiée? Là? C'est celle-là qu'on va bâtir.
Ouais.
C'est assez impressionnant s'ils sont capables de déployer.
Oui, définitivement. Puis tu sais, t'as des circuits permanents, puis t'as des circuits temporaires, puis t'as mm-hmm. des circuits qui sont semi. Fait que tu sais, Bahreïn, c'est un bon exemple. Ça, c'est un circuit permanent qui est contrôlé par le Sheikh. Fait que lui, c'est son terrain de jeu, il fait ce qu'il veut. Puis c'est drôle parce que. T'sais, quand tu regardes le protocole de la chose, c'est très impressionnant là, d'avoir des princes puis de la royauté. T'sais, à Monaco aussi, c'est la même chose. Mais nous, dans la vie, en tant que promoteurs, on se côtoie tous à part égale. Fait quand on était à l'Assemblée générale la semaine dernière, nous, on était dans la même équipe que Bahreïn pour aller faire du karting à F1 Drive, qui est au Tottenham Hotspur Stadium. Puis moi, j'étais en compétition contre Sheikh Salman, qui, lui, dans sa vie courante, est propriétaire de pistes de course. Puis tout ça, il est sorti de la gate. Il nous a tous clenchés. On l'a plus jamais revu, là. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, les réalités de l'un et de l'autre sont différentes au niveau budgétaire, mais aussi ce que tu peux faire avec un circuit temporaire comme le nôtre, puis un circuit permanent comme à Bahreïn, à Silverstone, à Spa, c'est complètement différent.
Mais c'est incroyable de voir aussi que ce qu'ils font comme expérience, on voit Vegas qui est mm-hmm. quand même un grand succès, même Miami, ce qu'on fait autour du stade de la NFL, du Hard Rock Stadium, puis de ces grands prix-là qui sont au Middle East, comme tu l'as dit. J'ai visité Abu Dhabi, c'était pas la course, mais marcher le circuit quand même, puis voir qu'on passe sous l'hôtel W, c'est incroyable de voir ce setup-là. Fait que Montréal reste un des endroits les plus aimés mm-hmm. de tous les gens de la Formule 1, des fans de Formule 1, que ça reste un des circuits les plus mythiques quand même, si on veut, sur le calendrier actuel dans les 24. Là.
Oui, on est le Grand Prix le plus vieux à l'extérieur du continent européen. Puis, tu sais, ça, souvent, les gens nous disent comme, oh, on adore Montréal. Puis je leur réponds tout le temps, mais oui, tu dis juste ça parce que c'est à moi que tu parles. Mais ils sont comme, non, pour vrai. Puis je pense que Montréal, la ville en tant que telle, en est pour beaucoup. Fait qu'on a la proximité avec la ville, qui est un avantage incroyable. L'année passée, avec les mesures de mobilité qu'on a mis en place, ça prenait 8 minutes pour que les équipes passent de leurs hôtels au circuit. Fait que ça c'est un attrait incroyable. Puis aussi, tu sais, la ville, elle vibre F1. Elle embrace vraiment l'événement en tant que tel. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il y a des choses qui se passent au centre-ville qui sont, en fait, elles sont toutes pas de notre sort. Là. Nous, ouais. La seule chose qu'on contrôle, c'est ce qu'il y a sur l'île Notre-Dame. Mais force est d'admettre que ça ajoute à l'ambiance puis le fait que les gens veulent venir à Montréal pour ce que ça a à offrir les soirs et les week-ends aussi. Là. Fait que nous, on contrôle ce qu'il y a en piste. Ben là, on a les concerts aussi qu'on ajoute cette année qui sont super intéressants, puis des nouveautés. Puis, tu sais, on est vraiment en train de se calquer sur ce que les autres Grands Prix font, mais au centre-ville aussi, tu sais, les hôteliers, les restaurateurs, tout ce qui se passe en ville, ça ajoute aussi à l'événement. Là. On voit pas ça partout. Trust me.
Non, ben effectivement. Puis de voir cette ambiance-là qui est, tu sais, puis je disais ça pas pour comparer, mais...
Mm-hmm.
Je veux dire que des fonds illimités peuvent mettre dans des circuits puis d'essayer d'acheter justement, ça s'achète pas cette ambiance-là puis cette passion-là comme on a ici puis l'historique également qui est fait à Montréal. Fait que je pense qu'on peut, ben surtout toi, mais qu'on peut garder la tête haute avec une grande fierté d'avoir le Grand Prix pour encore minimum 10 ans ici.
Ah, absolument. Puis, tu sais, moi, j'adore ça parce que moi, j'écoute toutes les courses, là, je veux dire toi aussi, je pense, mais j'écoute toutes les courses. Puis quand je vais chez Costco un dimanche après-midi après un Grand Prix puis que je vois des gens qui portent de la marchandise en plein mois de mars, tu sais, moi, ça me fait vibrer quand même parce que, tu sais, tu pourrais penser que parce que c'est l'hiver, c'est peut-être un petit peu plus déconnecté de la réalité ou que les gens y pensent un peu moins parce que c'est pas le Grand Prix du Canada. Mais tu vois des gens qui sont là avec leurs enfants, puis ils portent leurs casquettes ou ils portent des manteaux de marchandises, puis tout. Puis ça, je trouve ça vraiment le fun. Puis même en s'en venant ici, tantôt, il y avait un gars qui était sur le bord de la rue, il portait une casquette Ferrari. Fait que, tu sais, c'est très ancré dans ce qu'on a à Montréal, puis c'est sûr que ça contribue à l'attrait pour les touristes, mais aussi pour le grand cirque de la Formule 1.
Mais de l'avoir ici, la richesse qu'on a d'avoir un des 24 Grands Prix, parce qu'il pourrait en avoir 52. Mm-hmm. Il y a tellement de demandes pour en avoir.
Ouais.
La richesse d'en avoir un, l'historique, mais aussi ce que Liberty Media a commencé à faire pour... tu l'as vécu, tu as vécu l'ère Ecclestone, puis ouais. tu vis maintenant ce qu'on voit en poussant le marketing et tout le reste. Ça a ajouté, moi, j'ai une grande fierté. Hugo fait partie de l'épingle aussi. J'ai une grande fierté d'être le gars d'F1 à BPM. Puis là, mes chums, ça vient de me voir. « Hey, j'ai regardé la course. Hey, c'est le fun. » Comme ils embarquent puis ils commencent à triper eux autres avec. C'est vrai que c'est vraiment cool de voir que ce sport-là continue de grandir encore, malgré que c'en est un des plus globales qu'on n'a pas.
Oh, absolument. La croissance sur la F1 est assez phénoménale. Puis nous, tu sais, dans le temps, là, je vais parler comme pré-COVID, mettons 2017 à peu près, fallait qu'on dépense des dollars marketing incroyables dans le reste du Canada et sur la côte est américaine pour essayer d'avoir de l'attrait et de l'attraction dans le 25-35 ans. Là, ça, c'était le créneau qui nous manquait vraiment. Nous, on avait une population qui était vraiment vieillissante là, dans notre clientèle. Et puis, en un an, avec Drive to Survive, tout a changé pour nous. Puis, tu sais, on crédite beaucoup du succès de la Formule 1 sur Drive to Survive, puis c'est vrai, mais il aurait pu arrêter avec Drive to Survive puis juste dire genre, OK, on l'a fait, on a l'attrait maintenant, ça va être correct. Mais non, là, ils ont continué. Puis, le Grand Prix de Las Vegas, c'est un showcase contrôlé à 100% par la F1. Il n'y a pas de promoteur local là-dessus. Mais F1 Movie, toutes les collabos qu'ils font pour la marchandise officielle et officieuse, si on veut, ils sont vraiment dans le culturel. Ils sont vraiment rendus ailleurs que juste du sport automobile. Puis ça, c'est incroyable pour nous parce que ben, c'est un couteau à double tranchant, en fait. C'est incroyable pour nous sur la machine marketing puis l'intérêt que ça amène envers l'événement, mais ça nous force aussi, nous, en tant que promoteurs, à compétitionner entre nous pour rester d'actualité puis d'être un événement qui est digne d'un calibre de Formule 1. Parce que c'est plus juste l'action en piste. On peut plus se contenter de juste faire un Grand Prix qui dure 3 jours puis de pas avoir de divertissement ou de pas avoir l'espèce de mise en valeur de ce que de culturel puis de ce qu'il y a de local. Ça, ils nous mettent beaucoup de pression par rapport à ça. Puis ils devraient pas, dans le fond, là, parce que ça devrait juste être organique. T'sais, chaque Grand Prix devrait être fier de mettre ça de l'avant puis d'être capable de démontrer ce que sa ville ou sa province ou son pays a à offrir. Mais il y a certains Grands Prix qu'ils ont besoin d'un petit peu plus d'encouragement. Là. Nous, on est fiers de le faire puis on le fait dans le paddock depuis 2 ans. On essaye aussi de voir nos collaborations, comment est-ce qu'on est capable de mettre de l'avant des gens qui sont plus locaux. Ça fait partie de nos valeurs aussi. Là. Fait que ça, c'est le fun de voir la F1 prendre cette ampleur-là.
Justement, le défi de ça, tu dis que la F1 vous pousse à avoir une programmation culturelle notamment. T'sais, on voit de plus en plus de spectacles. Tu en as parlé brièvement. Ouais. Il va y avoir un artiste par jour.
Ouais.
J'ai vraiment hâte de voir.
Deux artistes par jour. On a un opener puis un main.
J'aurais dû dire un concert, pardon. Deux artistes par jour. Les gars de Simple Plan étaient comme... Ils m'en ont parlé, ils étaient comme super excités.
Ouais.
Vous jouez au Grand Prix? Oui, c'est sûr que oui. Je pense que ça va être une belle programmation. Mais comment, à chaque année, c'est un gros défi, déjà, je pense, d'organiser un Grand Prix de Formule 1, que ça soit un vif succès, mais de stepper up encore à chaque année sur tellement de fronts. T'sais, moi, j'ai été super impressionné l'an dernier. J'en ai parlé énormément ici en ondes puis sur le podcast, notamment de la mobilité. Tu en as parlé, les équipes, 8 minutes de leur hôtel. Honnêtement, ça m'a pris 15 minutes. Je reste à Griffintown, me rendre sur le circuit. C'est juste incroyable.
Ouais.
C'est un turnover complet de ce qu'on a vu d'il y a quelques années. Mais aussi, au niveau divertissement, comme tu l'as dit, il faut pousser. J'imagine que vous avez un plan de 5-6 ans là-dedans de continuer d'avoir des upgrades en termes de Formule 1 qui arrivent à chaque fois.
Ouais, c'est ça l'objectif. Tu sais, c'est un objectif de croissance constant. Là, je te dirais que notre plus gros défi en ce moment, c'est de tomber sur un cycle de 18 mois. Fait qu'avec les ressources qu'on avait puis la réalité qu'on avait quand on est revenu de la COVID, on était très, je peux dire au jour le jour, là, mais on était très d'un événement à un autre événement. Là.
Ouais.
On était vraiment sur un 12 mois. Là, avec tout ce qui est exigé, puis maintenant, on fait partie de la famille de Bell aussi. Fait que ce que Bell apporte aussi à la table en matière de ressources, mais aussi d'exigences, on essaye de tomber sur un cycle de 18 mois qui nous permet d'avoir de la vision. Fait que, tu sais, oui, au niveau du divertissement, là, on a un concert le vendredi, le samedi, le dimanche. Quand on regarde les autres Grands Prix, la majeure partie des Grands Prix ont des concerts. Nous, notre réalité, c'est qu'on est sur une île. On est sur une île. Fait qu'il faut qu'on retienne les gens sur le site le plus possible en leur donnant du divertissement puis en leur donnant du food and bev pour qu'ils veulent rester au circuit pour alléger le système de métro, en fait. Là, c'est ça la réalité. Ouais. Il y a une station de métro, il y a deux entrées, deux sorties pour notre site. Fait que la mobilité est un gros volet de ça. C'est pour ça qu'on fait du divertissement pour les garder sur le site. Mais aussi, on peut pas faire rentrer des gens supplémentaires. Parce que là, t'as comme ta sortie F1 en même temps que tu ferais rentrer des gens pour le concert. T'sais, il y a des gens qui ont dit pourquoi vous l'avez pas fait à l'espace 67, on aurait été capable de rentrer plus de monde. Oui, mais en même temps, l'espace 67 est utilisé pour notre entrée de site. Puis ça règle pas le problème que t'as des gens qui arrivent en métro pour aller au concert en même temps que t'as des gens qui repartent du circuit. Fait que c'est pour ça que là, on
l'a vu ça dans un certain événement.
C'est déjà arrivé dans le passé.
Le dossier que nous appelons Pitbull.
On le salue. mais c'est pour ça que cette année, on le fait sur le site.
Ouais.
Parce que ça va répondre à ces problématiques de logistique-là côté entrée-sortie de site. Puis aussi, ça ajoute un certain, je sais pas quel mot utiliser, là, mais un certain attrait, ouais, si on veut, pour nos fans qui sont sur le site, puis de garder ça dans l'écosystème F1.
Puis comment on fait ça? Puis il n'y a peut-être pas de réponse à la question, mais c'est parce que tu dis c'est une réalité, c'est un île.
Ouais.
Il peut pas rentrer plus. À un moment donné, tu peux pas. On peut mettre des plus grosses estrades, je sais pas, en accroché par des montgolfières, mais on peut pas en rentrer plus que ça. Donc comment on peut grandir le Grand Prix du Canada, mais en gardant une île comme ça? Est-ce que c'est d'avoir des événements remote au centre-ville, dans le Vieux-Montréal, des trucs comme ça? Est-ce que ça, c'est envisageable?
C'est dans nos objectifs. Il y a plusieurs Grands Prix qui sont en train de faire des showcases au centre-ville. Fait qu'il y en a un à Tokyo, il y en a un à Barcelone, il y en avait un à Melbourne l'année passée. C'est quelque chose qu'on aimerait faire. C'est dans nos ambitions proches, je te dirais, là, probablement dans les 2-3 prochaines années, d'avoir un festival au centre-ville. Par contre, on veut s'assurer que si nous, on sort de l'île Notre-Dame en tant que promoteur, on veut que ça respecte les valeurs F1 et que ça respecte les requis F1. On veut être capable de dire que c'est un événement F1. Fait que c'est pour ça que là, il faut travailler avec la F1 pour respecter leur cahier des charges, puisque eux veulent mettre de l'avant. Puis, tu sais, la F1, ils font une super bonne job, mais quand ils mettent leur logo sur quelque chose, ils s'assurent que ça respecte à 100% leurs valeurs.
Absolument.
Fait que pour faire ça, pour avoir une équipe satellite au centre-ville ou dans le vieux ou peu importe l'emplacement qu'on va choisir, il va falloir grandir notre équipe davantage aussi. T'sais, moi, quand j'ai commencé au Grand Prix du Canada, on était 12. L'année passée, on a acquis une quinzaine, je pense, d'employés. Puis là, on continue à grandir encore. On est rendu presque 50 maintenant, temps plein au Grand Prix du Canada. On est encore relativement une petite équipe comparée à d'autres promoteurs dans le reste du monde.
C'est sûr et certain.
Il y en a d'autres qui sont plus petits que nous, par exemple. On regarde la Belgique, ils sont 6, eux à temps plein, mais eux, ils vont faire du outsourcing majoritairement avec des fournisseurs pour pallier. Nous, on est rendu 50 quasiment à temps plein. On a une quantité exceptionnelle de temps partiel puis de contractuels qui viennent s'ajouter à notre équipe. Mais si on veut continuer à grandir, il faut que l'équipe continue à grandir aussi.
Tu as dit que tu regardais toutes les courses.
Ouais.
Ta passion de la Formule 1, elle vient de où? Est-ce que c'est en commençant à travailler dans la Formule 1 que la piqûre t'a pogné ou déjà à la base, t'étais une fan?
Oh non, ça c'est vraiment gênant comme question. Je ne connaissais rien à la Formule 1.
Il n'y a rien de gênant là-dedans?
Je connaissais Michael Schumacher parce que ma voisine, quand j'habitais encore dans l'ouest de l'île, elle aimait beaucoup Michael Schumacher. Fait que je connaissais son nom.
C'est déjà bon.
Puis je savais que c'était un gros événement parce que les gens de mon secondaire allaient sur Crescent.
Okay.
C'était ça mon knowledge de la Formule 1 quand j'ai commencé à F1. Fait que quand il y a un de mes professeurs à l'université en 2013 qui m'a dit « Tu devrais appliquer sur un poste au centre média », tu sais, je savais que je voulais travailler dans les médias. Là, ça, c'était quand même clair avec mon cheminement. Mais j'étais comme « Je peux pas travailler avec les médias, je saurais pas quoi leur dire. » Mais c'était un poste de stagiaire. Fait que, tu sais, je me suis dit « Au pire, je vais y aller, je vais aller faire des photocopies, je vais aller verser du café, puis ça va être ça ma première expérience. »
Je vais mettre ça dans mon CV. Puis...
Exact, ça va être génial sur mon CV. Je vais finir l'université après, je vais me chercher un job, tu sais. Ouais, la vie a fait les choses autrement, mais quand j'ai eu ma job à temps plein en 2014, parce que j'ai fait 2013 en tant que stagiaire, j'ai fait 2014 en tant que contractuel, puis j'ai été engagée à l'automne, c'est là que j'ai commencé à vraiment comme me mettre la tête dedans puis à commencer à tout écouter parce que, premièrement, il fallait que je sois au courant parce que j'avais comme une courbe d'apprentissage qui était quand même assez abrupte. Mm-hmm. Puis aussi, c'est longtemps à regarder des Grands Prix quand t'as pas une équipe pour laquelle voter. Fait que c'est là que là j'ai commencé à avoir des pilotes qui étaient plus intéressants ou peut-être des équipes. Puis moi, je suis fan du sport en général. Là. Je pense que ça vient de ma famille puis de la manière que j'ai été élevée. Mais je suis pas fan d'une équipe en tant que telle. Mm-hmm. Je veux dire, oui, je suis le Canadien parce que c'est notre équipe locale. Là, oh, mais ouais. Moi, je suis fan du travail acharné d'un athlète pour se rendre sur un podium ou pour gagner. T'sais, moi, j'écoute les Olympiques, puis à chaque fois qu'il y a un Canadien qui gagne, je suis super ému, puis j'ai le nez qui pique, puis j'ai comme les yeux dans la flotte. Là. Fait que pour...
On est deux.
Non, on est littéralement, deux ce matin, en m'en venant, j'écoutais le patinage de vitesse, puis c'est la première fois qu'on gagnait dans le relais ce matin. J'étais super fière. Fait que pour répondre à ta question, j'étais pas fan de la Formule 1, mais c'est vraiment une passion qui s'est créée par la force des choses, parce qu'il fallait acquérir des connaissances.
Ben, t'as dit que c'était gênant, mais je trouve absolument rien de gênant dans cette réponse-là du tout. C'est le fun de voir que tu t'es découvert quelque chose littéralement, tu sais, en disant, écoute, je vais y aller comme stagiaire. Puis finalement, ben, on te parle ici, puis j'ai dit ton titre d'entrée de jeu, t'es CEO, tu diriges le Grand Prix du Canada. C'est quand même assez formidable comme ascension en 13 ans, on y reviendra, mais je veux continuer sur ta passion du sport pour quelques minutes. Est-ce que ça vient de ton grand-père? J'ai ça, il y a quelques mois seulement, quelqu'un, hey, sais-tu que son grand-père, c'est Richard Garneau? Ben non, ça se peut pas.
Ouais.
Puis est-ce que ça vient de là, justement?
Ouais, ben.
Et de vouloir travailler dans les médias également?
Oui, ça c'est sûr. Toute ma famille est média. Ma mère a travaillé en production télé. Mon oncle est journaliste, il est encore d'ailleurs. Mon grand-père, bien évidemment, c'est sûr que ça a un peu forgé mes années quand j'étais plus jeune. Il y a une photo de moi où est-ce que je pense que j'ai comme 2-3 ans, puis je cogne dans la télé parce que mon grand-père est dans la télé. fait que mon grand-père, la soirée du hockey, bien évidemment, ouais. Ça a bercé mon enfance. Mais je dirais que par rapport à mon grand-père, ce qui a plus forgé mon amour pour le sport, c'est vraiment sa carrière olympique. Ça, c'était quelque chose qui était comme un gros moment de fierté pour nous. Puis comme même la semaine dernière, on est allé chez ma sœur, puis on a écouté la cérémonie d'ouverture des JO parce que c'était mon grand-père qui courait ça. Il faisait ouverture-clôture, il faisait le patinage artistique l'hiver, puis il faisait l'athlétisme l'été.
Ben oui.
Puis c'est drôle parce que ma mère puis mon oncle étaient comme, ben ça nous fait toujours de quoi quand c'est les Olympiques parce qu'on va entendre la voix de papa. Tu sais, comme eux, ils disaient, on va entendre la voix de papa. Puis pendant qu'il était en train de dire ça, il y avait des clips de Radio-Canada, des cérémonies d'ouverture, puis c'était mon grand-père. Oh, c'était wow. La voix de mon grand-père qui jouait. Tu sais. Fait que c'est sûr que ça a contribué à mon intérêt. Tu sais, ça, je pense que c'est clair. Une chose qui me désole, mais une chose que j'aurais voulu, mettons, par rapport à mon grand-père, j'aurais voulu qu'on travaille dans le même milieu en même temps. Mmh. Mais moi, j'ai commencé mon stage au Grand Prix. En fait, tout ça vient du fait que c'était pendant la période du décès de mon grand-père. Fait que mon grand-père est décédé le 20 janvier 2013. Et puis moi, j'ai manqué beaucoup d'école à ce moment-là, bien évidemment, à cause de ce que c'était. Puis un de mes professeurs à l'université, comme je disais tantôt, André Durocher, qui était au SPVM dans le temps, c'était mon professeur de gestion de crise. Il savait ce qui se passait, puis il était comme, écoute Sandrine, je vais t'aider un peu là-dedans, je vais t'accompagner un peu là-dedans. Puis c'est lui d'ailleurs qui a dit, tu devrais appliquer sur le poste au Grand Prix. Fait que je lui ai écrit un courriel il y a quelques années pour lui dire comme c'est un peu grâce à toi que je suis où est-ce que je suis maintenant. Mais c'est sûr que l'influence de mon grand-père là-dedans a fait en sorte qu'on est une famille très, très olympique, qu'on est une famille très, très sportive.
Ben absolument, puis avec raison de toute cette fierté-là. Tu sais, c'est si moi, ça, ce que tu me dis là, ça me touche, je ne sais pas pour Hugo, ça me touche grandement. Tu sais, c'est la voix de Richard Garneau, tout le monde identifie les Olympiques à ça. Oui, la soirée du hockey également, mais j'imagine même pas ça doit être quoi justement d'avoir grandi avec ce fait-là dans ta famille aussi. Donc, puis je comprends absolument ta désolation aussi. Mais ça doit être, écoute, encore une fois, une grande fierté pour toi. Tu es parti de ce courriel-là comme stagiaire. Puis là, raconte-nous justement ces étapes-là. C'est-à-dire, je suis stagiaire dans les communications au Grand Prix. Et là, tu finis par diriger toute l'opération complète.
Ouais, je la dirige pas toute seule. On est quand même une grande équipe. T'sais, j'ai notre président, Jean-Philippe Paradis.
Effectivement.
Puis j'ai aussi Marie-Pierre Vergevin puis Catherine Boilly, qui sont deux VP qui travaillent avec nous, bien évidemment. Ça prend vraiment un village là, pour faire un Grand Prix. Puis T'sais, on est une équipe majoritairement féminine, fait que ça aussi, c'est un gros plus là, quand on regarde le reste du championnat du monde. Mais quand on parle de mon parcours, je pense que je sais à quoi tu fais référence. Là. En 2013, j'étais stagiaire, puis à un moment donné, pendant le week-end, je me fais demander d'aider sur un point de presse avec Pauline Marois. Fait que Pauline Marois était première ministre du Québec à ce moment-là. C'était la première femme. Et puis, il y avait Monisha Kaltenborn, qui était aussi directrice d'une équipe, qui était aussi une des premières femmes à être directrice d'une équipe. Fait qu'ils ont fait un meet and greet puis un point de presse avec ça. Fait que j'étais allée assister pour cette période-là. Après ça, je suis retournée dans le centre média. Après ça, je me suis fait ressortir pour aider avec un autre truc, pour aider avec du protocole, pour aider avec des podiums. Fait que finalement, je faisais pas des photocopies pantoute, puis j'allais pas chercher du café pantoute. J'ai aidé avec plein d'affaires, puis j'étais devenue quand même assez multiniveau là, pendant cette semaine-là. Puis le dimanche, j'étais sur le podium, ben, en arrière-scène du podium avec nos dignitaires puis nos politiciens. Et puis, j'ai encore la photo dans mon téléphone d'ailleurs, il y a une des voitures qui s'est fait remorquer pour aller dans la ligne des puits. Puis, je l'ai vu passer, là, vraiment passer comme en face du podium. À ce moment-là, j'ai pris une photo, je suis retournée dans le centre média, puis je me suis dit, on a fait une belle course, ça va être super, c'était super le fun, tu sais. Puis là, j'étais dans le centre média, le téléphone commence à sonner, puis c'est des médias qui nous demandent, est-ce que vous pouvez confirmer un décès en piste? Mais tous les pilotes étaient retournés au puits, tout le monde était rentré à la maison, si on veut, puis il n'y avait pas eu d'accident, tu sais. Fait que là, on commence à investiguer pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Je vais voir la chef de presse à ce moment-là, je lui demande, est-ce que tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Elle quitte pour aller chercher plus d'informations, puis moi, je commence à faire une veille média. À ce moment-là, c'était Twitter, là. Twitter était super fort. Fait que je commence à faire une veille média, puis là, on se rend compte qu'il y a eu un accident impliquant un de nos officiels de piste dans le virage Sénat, dans le virage 2-3, mettons. Et puis, il y a des vidéos qui circulent. Fait qu'on tombe en période de gestion de crise, on ferme les portes, la cellule se crée, on va chercher les informations. Puis à ce moment-là, j'étais la seule personne dans le centre média qui était capable de rédiger en français et en anglais. Parce que je suis francophone, mais j'ai étudié à McGill. Puis j'ai été élevée dans l'ouest de l'île. Fait que je commence à écrire un communiqué de presse, on arrive pour l'émettre, on le traduit, blablabla. Puis le patient passe de critique à décédé. Fait qu'il faut qu'on scrape le communiqué de presse, on réécrit, on recommence. Puis là, time is of the essence, là, parce que le téléphone sonne, il y a des images en piste. Il fallait qu'on agisse vite. Puis j'ai eu un rush d'adrénaline ce jour-là, comme je n'ai jamais eu de ma vie. Je suis rentrée chez moi, j'habitais encore chez mes parents, je me suis couchée dans le gazon. Puis j'étais comme, what is my life? Qu'est-ce que je viens de vivre? Puis je me souviens d'avoir pensé, c'est littéralement la première fois de ma vie où est-ce que tout ce que j'ai appris jusqu'à présent m'a servi pendant un week-end. Puis fun fact, cette semaine-là ou cet été-là, mettons, j'ai passé tout l'été à essayer de retrouver un peu d'adrénaline parce que j'étais complètement éteinte. Là. J'avais comme vidé ma réserve d'adrénaline. J'ai demandé à mes amis d'aller à la ronde avec moi parce que j'essayais de sentir quelque chose. J'étais dans le monstre, puis j'étais juste comme...
Le fameux down post-événement. Là,
ouais, tu mais il a duré trois mois.
Là, tu peux plus te permettre ça. Là.
Non, 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 non. Fait que, tu sais, ça, je l'ai senti. Je suis retournée à l'école à l'automne. J'ai fait mon automne comme si la vie suivait son cours. Puis, tu sais, là, je pensais à ma carrière. Qu'est-ce que je vais faire quand je vais finir l'université? Puis là, le Grand Prix m'a rappelé en, je sais pas, peut-être en avril, peut-être mars-avril, mettons. Puis ils sont comme, est-ce que tu veux revenir comme stagiaire? Puis j'étais comme, ouais, non, c'est bon, je l'ai fait, c'est bon. Puis j'ai pensé pendant 4 secondes, puis j'étais comme, you know what? Je vais y aller. Je vais me faire une carte d'affaires sur Vistaprint avec mon nom, mon numéro de cellulaire, puis une adresse courriel professionnelle et non mon adresse courriel du secondaire. Je vais aller réseauter, tu sais. Puis quand je vais revenir après les vacances d'été, je me chercherai un job. La vie en a voulu autrement. Une heure après, le promoteur me rappelait puis il était comme, écoute, on veut pas que tu reviennes comme stagiaire, on veut que tu reviennes comme adjoint chef de presse. Fait que ça a été mon contrat en 2014. En juillet, entre deux voyages, j'étais littéralement à Montréal pendant comme 2 jours. En juillet 2014, il me rappelait pour m'offrir une job. Fait que j'ai commencé à l'automne en tant que coordonnatrice communication et marketing en 2014. Je suis devenue directrice communication et marketing en 2018. Je suis devenue DG en 2023 puis je suis devenue CEO en 2024.
Amen. J'ai pas d'autre chose à dire. C'est vraiment. C'est fou comment. Tu dis, je vais me faire une carte d'affaires, je vais réseauter au maximum. Veux pas, ça devient un endroit de réseautage. Ça me fait rire, puis ça me ramène à une anecdote. Hugo était à côté de moi. Premier Grand Prix, tu sais ce que c'est. C'est des personnalités. Il y a énormément de personnalités publiques qui sont dans le paddock, mais juste les gens en soi, que ce soit des médias, les pilotes, les gens des écuries, sont maintenant des stars internationales. Mm-hmm. Là, les pilotes, oui, mais avant, c'était juste ces 20 gars-là ou 22. Puis maintenant, on connaît tout le monde. premier Grand Prix, première journée, je croise Crofty, puis je le vois tout seul en train de taper sur son téléphone. J'ai dit, je peux pas manquer cette chance-là. Je vais me présenter, je dis que je suis un grand fan. Puis la première chose qu'il me dit, c'est ça. Il dit, ah ouais, qu'est-ce que tu fais? Je dis, ben, local radio guy. Il dit, ah ouais, il dit, comme moi dans mes early days, il dit, you know what? Promène-toi partout, puis va te présenter à tout le monde, puis fais ça. Je trouve ça quand même assez drôle que c'est le premier réflexe que tu as eu. Puis c'est la même chose que Crofty nous dit d'un autre,
non, c'est
de l'autre côté de la clôture. Comme, il dit, présente-toi, va chercher des noms, va chercher des numéros de téléphone de tout le monde. Puis c'est ce qu'on a essayé de faire. Ça devient un niveau de réseautage incroyable, cet endroit-là, ce paddock-là.
Absolument. Puis, tu sais, fun fact, je pense que j'ai remis aucune carte ce week-end-là. Je les ai encore chez nous. Mais, fun fact, c'est it really is about who you know. Puis, ça, dans le monde de la Formule 1, c'est vraiment fort, là, parce qu'il y a tellement d'intérêt pour un poste en Formule 1, que ce soit du côté promoteur, du côté équipier, FIA, F1. Il faut, à un moment donné, il faut se créer un réseau. Puis, puis rester dans cet écosystème-là parce que c'est vraiment, ça peut devenir vraiment overwhelming la quantité de CV qu'on reçoit à chaque fois que même nous, on publie un post. Là. Puis, je dois dire que Instagram, à ce moment-là, a été un gros joueur. Tu sais, moi, j'étais pas vieille quand j'ai commencé à travailler en Formule 1. Je pense que j'avais 25 ans, 26 ans. Puis, tu sais, toute ma vie perso était passée sur les médias sociaux. Là. Puis, à ce moment-là, quand tu commençais à travailler avec des gens qui avaient ton âge, ben tu te suivais sur Instagram. Mm-hmm. C'était comme ça la manière de réseauter puis de créer ton écosystème. Puis pour moi, ça a été hyper payant parce que après ça, je pouvais entretenir des conversations avec ces gens-là plus que genre, ah, oh, est-ce que tu as rempli la to-do list ABCD? T'sais. On pouvait avoir des insights sur ce qui se passait dans la vie personnelle de ces gens-là. Pas de manière comme invasive, mais tu sais, quand il y en avait une qui partait en congé de maternité, puis là, tu étais capable d'avoir une conversation avec elle, puis quand elle revenait, pour dire genre, hey, comment ça va? Comme, puis tu sais, d'entretenir des conversations autres que la job. Fait que ton réseau est vraiment ton plus grand allié dans ce milieu-ci.
Certainement. Parlons maintenant de l'édition dernière du Grand Prix, qui a été un vif succès. Je pense pas qu'il y a eu beaucoup de critiques. La température a aussi aidé. Tu sais, je pense que ça aurait été quand même un succès.
On a placé la commande pour cette année aussi contre la météo.
Merveilleux. On est très heureux. J'ai bien hâte de voir ça. Mais il y a même, j'oublie son nom, mais celle qui s'occupe des communications chez Ferrari, elle dit ça fait...
Sylvia.
Oui. Elle dit ça fait 30 ans que je viens ici. C'est la première fois que je vois pas de pluie. Mais elle aussi, c'est elle qui m'en a parlé sans même que je lui pose la question à quel point ça avait été l'édition la plus merveilleuse qu'elle avait vue du Grand Prix du Canada. Ce avec quoi j'ai été d'accord. C'est pas parce que t'es là, j'en ai déjà parlé en ondes. Tu le sais peut-être déjà que j'ai dit ça, mais cela dit, comment on réfléchit là-dessus? Parce que la semaine après, vous annoncez qu'on a un contrat de 10 ans.
Ouais, deux jours après.
Deux jours après.
Le mardi matin, ouais.
Dans la semaine qui a suivi, ouais. Ça s'est fait. Deux jours après, c'était réglé. On se ramassait tout au circuit encore pour cette super belle nouvelle-là. Mais comment on est capable d'absorber ça puis de réfléchir dessus si on est déjà en train de travailler sur l'édition qui est déjà écourtée pour l'année prochaine? Comprends-tu un peu où est-ce que je veux dire? Est-ce qu'on a le temps de réaliser le succès qu'on a vécu ou déjà là, c'est comme onwards and upwards puis il faut penser à 2026, 27, 28?
C'est toujours onwards and upwards.
Pas le temps de recevoir des tapes dans le dos.
Ben, tu les reçois, tu fais un sourire, mais t'enregistres pas vraiment c'est quoi qui se passe.
C'est bon, ça.
Tu sais, nous, on avait beaucoup de pression là, par rapport au Grand Prix 2025. Jamais est-ce qu'on aurait réussi le Grand Prix 25 qu'on a réussi si ça n'avait pas été de tout le monde qui a mis l'épaule à la roue. Je pense que, tu sais, ça, je l'ai déjà dit dans le passé aussi, là, 2024 avait besoin d'éclater comme ça a éclaté pour que tout le monde se ramasse autour de la table puis s'assure qu'on le garde, le Grand Prix. Tu sais, on en parlait d'emblée tantôt, là, on est chanceux d'en avoir un.
Mm-hmm.
Faut y faire attention puis faut s'assurer qu'on le garde parce que il y en a beaucoup qui sont sur une liste pour en avoir un après nous autres si on le perd. Fait que tout le monde qui était autour de la table, tous nos niveaux de bailleurs de fonds, le Parc Jean-Drapeau, la Ville de Montréal, Tourisme Montréal, Tourisme Québec, Développement économique Canada nous a aidés puis a contribué à ce que ce puzzle-là fonctionne pour 2025. Nous, on savait que si 2025 allait bien, puis c'était ça l'objectif, on savait qu'on s'enlignait pour un renouvellement de contrat.
OK.
Fait que ça a été comme travailler en simultané. Il y avait beaucoup de pression sur le dimanche parce qu'on sait qu'en 2024, un des facteurs qui a été très, très, très problématique pour nous et qui a fait en sorte qu'on a failli le perdre, c'est l'envahissement de piste puis des gens qui se sont ramassés sur la piste avant que la piste soit froide. Fait qu'il y avait beaucoup de pression sur ce moment-là. Puis il y a d'ailleurs, il y a des photos de moi sur le toit à ce moment-là parce qu'on est littéralement en train de caler les shots pour le moment où est-ce que la piste est froide et claire et que les gens peuvent embarquer sur la piste. Fait que jusqu'à ce moment-là, on pouvait quand même relativement bien contrôler la mobilité. On a mis toutes les ressources qu'il fallait qu'on mette en place pour assurer un Grand Prix réussi. Mais tout était vraiment sur l'envahissement de piste. Fait que ce dimanche-là, ce moment-là, le dimanche, ça a été vraiment le point pivot que, OK, on va l'avoir, notre renouvellement. Et puis, fun fact, la tranche de vie, gardez-le ou gardez-le pas, là, mais après l'envahissement de piste, quand l'envahissement de piste a été réussi, puis ça va être un facteur sur lequel on va être jugé à chaque année, là, j'ai reçu un texto de la Formule 1 qui me disait « Est-ce que tu peux nous envoyer une photo de ton passeport, s'il te plaît? On te met sur le F1 Charter pour aller voir le F1 Movie, la première du F1 Movie à New York. » Fait qu'on avait réussi l'envahissement de piste. Ils m'ont demandé mon passeport. Ça s'est fait comme dans les 20 minutes qui ont suivi.
Wow.
Puis c'est ça, le lundi matin, je m'en allais à New York pour la première du F1 Movie. Et puis, parce qu'on annonçait notre renouvellement le mardi matin, Jean-Philippe Paradis, mon président et moi, on est revenus pendant la nuit en auto de New York jusqu'à Montréal parce qu'il fallait qu'on soit au circuit à 7h30 le lendemain matin.
Ouais, je me souviens, c'était parlé à ce moment-là. Comment t'as fait? C'est vraiment...
Time travel!
C'est ça. Mais comment tu t'es senti dans ce moment-là? Parce que toi, t'as travaillé, puis j'ai une autre question mm-hmm. par rapport à ça après, mais t'as travaillé avec cette pression-là pendant... mettons un an, tu sais, suite à 2024, mais peut-être même plus longtemps que ça. Et tu savais qu'il y avait ce renouvellement-là qui arrivait et que tout le succès dépendait finalement de ce moment-là.
Ouais.
Mais quand le moment était réussi, entre le fait que le moment était réussi puis que tu reçoives ce message texte-là, toi, personnellement, est-ce que tu as eu un moment dans lequel tu as pu crier victoire à toi-même?
Non, j'ai pleuré. J'ai pleuré pour vrai. Parce que j'ai reçu le texto qui me demandait mon passeport, fait que je savais qu'on l'avait réussi puis qu'on avait le prolongement. Mais moi, j'étais dans le race control à ce moment-là, fait que je l'ai vu, puis j'ai même pas enregistré ce que ça voulait dire.
Ouais.
Parce que j'étais dans le race control avec notre club automobile, puis on était en train de passer la séquence complète de l'envahissement de piste. Fait que on était un peu sur autopilot. Puis quand on a complété la séquence avec la scène, puis qu'on a compris qu'on l'avait pour vrai parce que je le croyais pas. T'sais, il fallait que j'aie une preuve, jusqu'à temps que j'aie un courriel ou une preuve concrète qui nous confirmait qu'on l'avait sauvé, le Grand Prix, j'y croyais pas. Fait que quand on a fait le minute by minute, puis que là, on a réussi à voir qu'on était correct, j'ai pleuré, mais je pense que j'ai pleuré genre 6 larmes. Puis là, c'était comme, OK, on continue. J'étais tellement comme en autopilot. Puis là, il fallait l'annoncer à l'équipe parce que l'équipe, je peux pas leur dire assez souvent à quel point je suis fière d'eux et que je suis fière de nous en tant qu'équipe et de tout ce qu'on a accompli. Parce que 2024 à 2025, ça a été une gestion de crise constante. Ça a été une adaptation constante. On en a demandé énormément de l'équipe. Puis oui, on a ajouté des ressources. Puis c'est sûr que ça aide. Puis on est content qu'ils soient avec nous maintenant. Mmh. Mais il a fallu les onboarder, toutes ces ressources-là aussi. Fait qu'on avait le stress de ne pas perdre notre événement. On avait le stress qu'il fallait qu'on fasse un 180 sur notre événement. On avait le stress qu'il fallait qu'on onboard ces gens-là pour qu'ils nous aident là-dedans. Puis là, tout était sur ce point pivot-là de l'envahissement de piste. Fait qu'à partir du moment où est-ce que j'ai su qu'on l'avait puis qu'on était correct, j'ai versé 6 larmes. J'ai averti JP, puis j'ai averti Catherine puis Marie-Pierre. Puis après ça, on est allé, nous on a des bureaux temporaires, on appelle ça le Village Octane. On est allé au Village Octane, puis on l'a annoncé à l'équipe qu'on l'avait sauvé, le Grand Prix du Canada. Puis là, on a soufflé un peu ce soir-là. On a soufflé aussi le mardi matin quand on a annoncé à l'équipe qu'on avait le renouvellement de contrat. Mais ça, on l'a ridé, ben je parle pour moi, là, moi je l'ai ridé pas mal tout l'été. Sur l'été, j'étais encore sur l'adrénaline de tout ça, puis là, comme faut pas lâcher le momentum, puis on continue, puis tu sais, on était excessivement fiers. Puis quand on s'est représenté dans des paddocks après, les gens nous disaient à quel point ça avait changé, puis à quel point c'était long overdue, puis qu'on était beau, qu'on était fin, qu'on était capable. Mais à l'automne, c'est là que ça a été plus difficile parce que l'adrénaline tombe, puis là, il faut que tu continues ta planif pour rentrer sur ce cycle de 18 mois-là dont je parlais tantôt. Puis là, l'équipe était fatiguée. Puis il y avait raison d'être fatiguée. Là. On
absolument.
On
n'avait
personne d'être fatigué, on était brûlés.
On est humains. La dernière fois que j'ai regardé, là,
ouais.
On est tous humains.
Fait que les vacances de Noël cette année, là, ils ont été pleinement méritées. Et puis, c'était du repos que tout le monde avait besoin pour revenir ressourcer en janvier.
de travailler là-dedans maintenant, ça fait quelques mois. Mm-hmm. Ça va faire un an ou presque là, quand la prochaine édition va arriver. De travailler dans cet état positif-là maintenant. De ne plus avoir peur de le perdre parce que même si 2024 est arrivé, puis on en a parlé, toi et moi, l'an dernier, de ce climat-là, puis oui, la pression, tout le reste. Avant ça, il y avait toujours, puis je pense que c'est la fameuse vieille mentalité de Bernie Ecclestone, de si ça marche pas, il a même menacé de retirer Monaco un moment donné, puis c'était des négociations, puis lui, c'était comme ça. Puis les fans de Formule 1 aussi, puis même les médias, ont toujours eu peur de le perdre, même s'il y avait un succès ou quoi que ce soit qui arrivait. Maintenant, d'avoir ce contrat-là, de bien travailler avec la Formule 1, que ce soit un succès, qu'est-ce que ça a changé pour toi? Je pense, est-ce que je me trompe si je dis que c'est une première, peut-être depuis que tu es au Grand Prix du Canada, qu'on n'a plus peur de le perdre nécessairement?
Non, tu sais, on en a eu des contrats 10 ans avec la F1. C'est sûr que Bernie disait ce que Bernie disait, là, je veux dire. Bernie is what Bernie is. Là.
Il continue d'ailleurs, il n'arrête pas.
Oh non, je sais bien. Mais tu sais, avec Liberty, maintenant, on peut avoir de la pérennité, on peut voir dans le futur. Ça nous aide beaucoup aussi sur nos contrats, tu sais, nos contrats opérationnels, mais aussi nos contrats de commercialisation avec nos commanditaires. C'est sûr que ça nous aide. Par contre, je dirais qu'il faut pas qu'on s'assoie sur nos lauriers. Tu sais, un contrat, ça peut toujours être brisé.
Ouais.
Fait qu'il ne faut pas devenir relax à un point tel où est-ce qu'on se dit genre ben ils peuvent pas s'en sortir, on est canné dans un contrat. Puis ça, moi je le vois pas comme étant quelque chose de négatif, je le vois comme étant un motivateur dans le sens que on va vous prouver année après année qu'on mérite d'être ici puis qu'on vous donnera pas le goût d'aller voir ailleurs. Fait que moi je le vois comme étant un motivateur, puis je pense que pour l'équipe aussi de savoir qu'ils peuvent s'enligner sur des contrats multi-années, qu'ils peuvent s'enligner sur des projets multi-années aussi. Puis ça, c'est l'avantage qu'on a aussi avec Bell, c'est que maintenant, on peut avoir une prévision long terme sur l'avenir de l'événement, mais ce que Bell veut aussi, chose qu'on n'avait pas nécessairement dans le passé. Fait que oui, il y a la pression de la Formule 1, mais on se met de la pression aussi, nous autres aussi, à l'interne, pour prouver année après année qu'on mérite d'être au calendrier, puis qu'on est compétitif contre des Grands Prix, contre Miami ou des Grands Prix européens qui ont le volet historique puis qui peuvent surfer un petit peu plus sur la vague d'avoir des Grands Prix qui sont à proximité.
Mais ce qu'on entend dans la communauté de la Formule 1 mondiale, c'est que Montréal est encore la meilleure, une des meilleures expériences sur le circuit au complet. Ouais. Mais en Amérique du Nord, c'est numéro un.
Oh, absolument. Absolument. Puis, je veux rien enlever aux Américains qui font une bonne job. T'sais, Miami font une job exceptionnelle avec un Grand Prix qui est dans un stationnement, on va se le dire. Le Texas.
Avec une fausse marina aussi.
Ouais, mais ça, c'est cool. Pour y avoir été, c'est quand même cool. Tu sais, le Texas, c'est un circuit permanent, mais la ville de Austin est vraiment impressionnante aussi. Tu sais, fait que leur réalité est complètement différente. Mais Las Vegas, on pourra jamais se comparer à Las Vegas. Las Vegas est un showcase F1 qui est mis en place par la F1 pour un show télévisuel.
Mm-hmm.
Puis il l'assume pleinement. C'est ça, Las Vegas. Las Vegas, c'est pour montrer, pas juste aux autres Grands Prix, là, mais pour montrer à la planète puis à tous les autres sports que la Formule 1 est capable de faire un Super Bowl de cette ampleur-là qui dure 3 jours.
Mais c'est un championnat diversifié maintenant. Les 24 Grands Prix sont tous différents sur... autant au niveau du climat que sur la piste, que je veux dire, les rigueurs de certains endroits, la dégradation des pneus, peu importe. Là, je veux dire, chaque des 24 Grands Prix sont tous un test puis une expérience différente maintenant. C'est vraiment impressionnant. As-tu hâte à la saison 2026?
J'ai hâte à la saison
2026. En tant que fan, avec les nouvelles réglementations, tout ça?
Ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Là, c'est sûr, on les a vus tourner à Barcelone, mais c'est pas tout le monde qui a tourné. J'ai hâte de voir à Bahreïn ce que ça va donner. Quoique le testing... les équipes les utilisent des fois à leur avantage là, pour essayer de pousser des narratifs que genre « Oh non, la voiture n'est pas compétitive. » Puis finalement, ils arrivent à Melbourne puis ils sont capables de clencher. Là.
Salut Mercedes. Ils sont excellents.
On salue Audi aussi qui fait son entrée. Fait que oui, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir la compétition aussi. Je pense que Lando, Oscar... ils ont beau dire qu'ils ont mis leur rivalité de côté avec ce qui s'est passé l'année passée. At the end of the day, c'est des compétiteurs. J'ai hâte de voir ce que ça va donner.
Mm-hmm.
Chez Red Bull aussi, j'ai hâte de voir. Je suis contente de voir Valtteri aussi revenir en piste. Valtteri Bottas, qui est tellement un bon Jack. tu sais, quand on était à l'Assemblée générale il y a deux semaines, à un moment donné, on jouait en équipe à des jeux compétitifs, là, puis ils ont demandé ça va être quoi la licorne de 2026. Puis moi, mon équipe, on a dit que Cadillac allait avoir un podium. Fait que j'ai hâte
j'aime
de voir.
J'aime ça comme hot take, Sandrine, j'aime ça.
Ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner.
J'aime ça. Il me reste deux questions avant d'être laissé filer. Ben justement, ta licorne, tu dis Valtteri. Je peux pas m'empêcher de te poser une question sur Lewis qui s'est fait tellement barouetter la saison dernière. Puis là, il tournait à Barcelone. Puis on dirait que la narrative a changé en dedans d'un après-midi. Max Verstappen a été ultra impressionné par rapport à ses performances. Là, tout le monde parle de lui. Brown également. Comme quoi, ça pourrait être une grosse surprise cette année.
Je pensais que tu allais me parler de Kim Kardashian, là, mais oui, on peut parler de ses performances en plus.
On peut parler de Kim K après, j'ai aucun problème. Je comprends pas cette relation-là encore, mais peut-être que je vais m'y faire.
C'est encore tout récent. Jusqu'à il y a deux jours, ils étaient juste des amis. Fait que...
Ouais, c'est ça. Ça a changé au Super Bowl un peu.
Ça a changé au Super Bowl.
Assez rapidement.
Lewis, il ne faut pas sous-estimer Lewis. L'année passée, si tu m'avais posé exactement la même question, j'aurais dit qu'il aurait dû se retirer quand il était à son apogée. Là. Mm-hmm. Ferrari a été tough pour lui. En même temps, c'est pas juste un pilote en piste, c'est aussi quelqu'un qui est capable de verbaliser ce qui se passe dans sa voiture, qui est capable d'aider avec le développement de la voiture. Peut-être que 2026 est la remise à niveau que Ferrari avait besoin. On leur souhaite. Il y a eu des bonnes années de Ferrari. Ça fait longtemps. Ils sont dus pour un comeback. Mais là, c'est ultra compétitif. McLaren a de l'argent avec Zach Brown. Aston Martin a de l'argent avec, avec Adrian Newey puis avec Lawrence Stroll. Ouais. Audi fait son entrée, mais ils ont de l'argent aussi. Tu sais, Ferrari, il faut que ça se passe à l'usine. Puis le problème avec Ferrari, puis ça, c'est pas un hot take, là. C'est le problème est à la tête. C'est à la maison mère de Ferrari où est-ce qu'ils font rouler des têtes à chaque fois que ça fonctionne pas. Mais je pense que le problème est beaucoup plus gros que juste dans l'équipe de Formule 1. Fait que j'espère que Lewis va être capable de les aider à développer la voiture, mais ça...
Il y a un danger en tant qu'entreprise, puis tu le sais encore plus que moi, d'arriver puis de dire, on a toujours fait ça comme ça.
Oh, ça nous a donné du succès. Hey, ça, c'est du poison.
T'sais, on a toujours fait ça comme ça, ça nous a donné du succès. C'est comme ça ici chez Ferrari. Ouais. On fait ça de même, c'est notre mentalité. Puis là, t'as un Britannique qui arrive puis il dit non, guys.
Oui, mais encore.
C'est sûr que ça allait, pour utiliser un terme bien de hockey d'ici, shaker les colonnes du temple puis qu'on allait avoir un renouvellement. J'ai hâte de voir ça, moi aussi. Je pense qu'on va avoir des belles surprises cette année. Puis juste le fait d'avoir presque tous les constructeurs automobiles au monde qui sont impliqués dans la Formule 1, vois-tu ça d'un bon œil également, de voir que, tu sais, il y a une certaine période où est-ce qu'on a. C'est début des années 2010, c'est ça qu'ils ont tous quitté ou presque les constructeurs automobiles. Puis là, ils veulent s'impliquer d'une façon ou d'une autre et revenir. Je pense que c'est un signe des temps qui est très, très positif.
Ah, absolument, absolument. Puis tu sais, la Formule 1, c'est un incubateur. On le sait, les freins ABS, ça vient de la Formule 1. Les moteurs hybrides, ça vient de la Formule 1. Fait que je pense que après qu'ils aient quitté, puis justement, pour revenir à ce que tu viens de dire, maintenant, le fait qu'ils veulent revenir, oui, il y a l'aspect Formule 1 puis la compétition du sport automobile. Ça, je le nie pas. Mais je pense qu'il y a aussi... de la projection long terme des motoristes qui sont comme qu'est-ce qu'on est capable de développer en Formule 1 qui peuvent nous servir sur nos voitures de route aussi. Là.
Merci Sandrine.
Ça fait plaisir, merci
J'avais
de l'invitation.
J'avais mille autres questions à te poser, mais on fera ça l'année prochaine.
C'est bon.
Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup de ton temps, c'est fort apprécié. Bonne édition 2026.
Merci.
Bon début de saison également. Tu vas voyager pas mal encore?
Ouais, moi j'en fais à peu près 8 par année. Fait que c'est important pour la Formule 1 qu'on voyage puis qu'on voit ce qui est fait ailleurs. Fait que l'équipe voyage aussi. On en voit.
T'as pas vu, t'as vraiment hâte de voir.
Oh, que j'ai vraiment hâte de voir. Ben là, je m'en vais au Japon.
Ah ouais, tu l'avais pas fait encore.
J'en ai pas fait un en Asie. Fait que ça va être impressionnant. Je m'en vais au Japon. Cette année, je vais aussi faire l'Autriche que j'ai jamais fait. Alors, ça, c'est un circuit permanent. Fait que ça va être intéressant aussi. Il y a Madrid qui s'ajoute au calendrier cette année. Fait que ça, j'ai hâte de voir.
Très contesté. J'ai hâte de voir ça, là, mais à date, les gens sont... parce que Barcelone était tellement aimé.
Ouais.
J'ai hâte de voir ce que ça va donner à Madrid.
On est très proche du Grand Prix de Barcelone. C'est sûr que pour eux, c'est de la compétition directe. C'est un peu comme quand ils ont ajouté les Pays-Bas après à côté du Grand Prix de la Belgique. Là. Mm-hmm. C'est comme à 2 heures de route. Fait que j'ai hâte de voir Madrid. Ils sont super fins, les promoteurs. Ils sont très, très, très intéressés, super curieux. Fait que je pense qu'ils vont réussir, mais ça va être le fun. Ça va être une belle saison. Je pense qu'on s'enligne pour une super belle saison.
Encore une fois, bonne saison. Bon voyagement aussi, puis c'est certain qu'on se reparle dans le coin du Grand Prix.
Absolument. Merci.
C'est à toi.